Chapitre 22. Stevie.
On est le 24, c'est le grand soir. Jamais on n'a été aussi peinard. La majorité des enfants de la prairie sont rentrés chez eux pour Noël. Même les gosses abandonnés, le soir du 24, sont accueillis dans un vrai foyer. Une tante, un cousin éloigné, un papa ou une maman qui accepte, rien qu'une fois par an, de jouer son rôle de parent. Résultat, depuis ce matin avec Nina, on a l'étage pour nous toutes seules. J'ai évidemment refusé de passer le réveillon avec papa. Et la juge des enfants continue, année après année, pour protéger Nina, de prononcer envers ses parents une mesure d'éloignement. Père condamné pour inceste, mère condamnée pour complicité, aucune sœur ou aucun frère pour partager sa peine, des cousins très éloignés la connaissant à peine. Nina a depuis longtemps compris que sa vie était ici, à la prairie. Qu'elle n'en sortirait qu'à sa majorité pour enfin profiter du droit le plus essentiel à ses yeux et dont on l'a privée, la liberté. On ne doit pas être plus de 13 enfants coincés à la prairie, et pourtant ce soir, personne ne s'apercevra de notre absence. Benny est en congé. Elle ne reviendra que plusieurs semaines après avoir accouché. Quand elle n'est pas là, dans la maison 2, c'est le défilé des stagiaires, des intérimaires, des non-diplômés, celles qui pleurent dès qu'elles lisent notre dossier et nous regardent comme si on était Heidi ou le petit Rémi. Ou plus nombreuses encore, celles qui ne supportent pas de se faire insulter dès qu'elles essayent d'imposer un peu d'autorité et font leur valise à la première crise. Parmi les rares titulaires, ça ne se bouscule pas pour être de garde le soir de Noël. Alors on envoie celles qui n'ont pas le choix. Je ne suis même pas certaine qu'Elodie, la nouvelle référente débarquée hier matin, elle doit avoir à peine 50 plus que nous, connaisse nos prénoms, et encore moins le nombre de chaises à placer autour de la table du réveillon. Question méthode d'évasion avec Nina, on a décidé de faire dans le classique. Deux draps noués et accrochés au radiateur sous la fenêtre ouverte.
« 7 ans que j'en rêvais !»
m'a fait Nina, les yeux brillants en accrochant les draps.
« On peut pas passer toute son enfance dans un foyer sans faire un jour un truc comme ça !»«
On arrive, Stevie !»
Comme toujours, Steve, tu es ponctuel. Tu as garé la camionnette de ton oncle plombier zingueur Rössler sur le trottoir, sous notre fenêtre. Tu nous as certifié que quand on sait conduire un 103, on sait tout conduire. Le soir de Noël, aucun flic ne sera de sortie avant minuit. Ils se taperont comme tout le monde la dinde à la gendarmerie et ne sortiront qu'après le dessert pour aller cueillir ceux qui rentrent chez eux en ayant bu un coup de trop. Joyeux Noël, la prune, c'est cadeau. Tu secoues la tête pour que le marteau de Thor, ton Mjolnir d'après ton quid, se balance sur ton torse. Tu prétends qu'il contient la force de tous tes ancêtres vikings. J'ai surtout peur qu'il te défonce la poitrine. Tu as l'air sûr de toi, Stevie. Nina paraît déterminée, elle aussi. Karim n'est toujours pas arrivé. Moi, je tremble. Suis-je à ce point cinglée de vous entraîner dans cette folie? Je retiens le bras de Nina avant qu'elle s'accroche au drap. Je parle assez fort pour que tu entendes aussi en bas.
On peut encore tout arrêter.
Nina et toi me regardez étrangement. Tout arrêter? On prépare notre plan depuis 6 semaines. Je suis obligée de préciser.
Vous savez très bien ce que je veux dire. On n'est pas en train de faire une simple bêtise. On prépare un cambriolage. Si on se fait prendre...
Nina me pousse pour attraper le drap.
On risque rien, on est mineur.
Comme pour confirmer, tu te penches vers le fauteuil passager pour attraper ton quid.
C'est bon, Steve. Pas la peine de me lire la rubrique code pénal des enfants. On n'ira pas en prison, d'accord, mais...
Je prends une longue inspiration.
C'est trop risqué. C'est mon histoire. C'est moi qui veux entrer chez Vidame, fouiller chez lui, lire la plaque de cette voiture noire dans son garage. Vous n'avez rien à gagner.
Tu siffles entre tes dernières dents par la portière ouverte.
Juste un magot de 10 plaques à se partager à 4.
Il fait une température glaciale. J'aurais dû y voir un signe que tout allait tourner mal.
Ok, dis-je. On change rien au plan. Vous aurez votre part. Mais j'y vais seule, avec Karim. Vous avez déjà assez pris de risques.
Et laisser ce branleur de Karim conduire le camion de tonton? Hors de question. C'est non, sans négociation.
Tu as au moins gagné le regard admiratif que Nina pose sur toi. Un petit souffle chaud avant le grand froid. Nina se tourne vers moi en empoignant fermement cette fois les draps.
Et hors de question de laisser Karim tout seul avec toi, ma follette. Je te l'ai dit depuis le début. Il est pour moi.
D'ailleurs, Karim est là. Il a forcément tout entendu. Je ne vois que le bout incandescent de sa cigarette briller dans la nuit noire. Elle rougit quand il en tire une dernière taffe et disparaît comme un papillon de nuit.
C'est bon, les mômes ?
Nous lance Karim en se frottant les mains. Il doit vraiment être gelé. Pour la première fois que je le connais, son blouson de cuir est fermé. Karim est un pro. Même s'il nous a assuré pendant la préparation du cambriolage qu'il s'était rangé, qu'il ne jouait plus au déménageur depuis des années, qu'il le faisait une dernière fois pour nous, et aussi un peu pour les chats, et sans doute beaucoup pour Nina. Tu te débrouilles pas mal non plus, Stevie. Pour les beaux yeux de Nina, qu'est-ce qu'un homme ne ferait pas ? Tu éteins les phares du camion 200 mètres avant le Montfortin, pour ne pas alerter les voisins, en nous expliquant que tu es nyctalope, page 157C du Quid, qui voit la nuit, comme les chats, les chouettes, les hérissons, les araignées, les pieuvres. Avant d'avouer que tu as fait des repérages en mob chaque jour depuis 4 semaines, jusqu'à connaître par cœur l'impasse qui mène au repère des vidames. Tu ajoutes que tu as noté les habitudes de la seule personne qui surveille la maison pendant que toute la petite famille Vidame est allée chercher la grotte du Père Noël dans le cercle polaire. Une femme dont la principale mission est de nourrir les chats matin et soir et qui ensuite rentre chez elle. Karim repère l'alarme au-dessus du portail et la neutralise aussi facilement que s'il s'agissait d'un réveil. Crocheter la grille paraît encore plus simple pour lui. Je me dis que j'ai engagé le gars le plus diplômé du quartier Sorano. CAP de désinstalleur d'alarme, BEP d'antiserrurier. À toi de jouer, Stevie. Tu avances le camion, toujours dans le noir, le plus près possible de la maison. En marche arrière, histoire de pimenter encore un peu ton numéro de conducteur aux yeux clos, de pouvoir charger plus facilement les minous et de pouvoir repartir sans avoir à effectuer un demi-tour. Nouveau miracle de Karim aux doigts de fée, la porte de la maison s'est ouverte sans qu'aucune sirène ne se mette à hurler. À partir de là, chacun sait ce qu'il a à faire. Karim et toi avez pour mission, si possible sans trop vous engueuler, de charger les chats à l'arrière du camion, dans les 23 cartons percés récupérés chez Monsieur Femme. Nina a pour mission de tout photographier. J'en ai eu l'idée, sachant que c'est sans doute la seule occasion que j'aurai d'entrer chez les vidames et que je manquerai de temps pour à nouveau tout fouiller. Tu lui as confié le Minolta d'un de tes cousins qui travaille sur le port et a une conception très personnelle de l'import-export. Et moi, je m'occupe de mes affaires. On n'est pas pressé, a assuré Karim. Il ne faudra pas paniquer. Une fois à l'intérieur du parc, toute lumière éteinte, toute alarme coupée, personne ne pourra nous repérer. Dès que j'entre, je vois 2 petites lumières briller en haut de l'escalier. Je les reconnais immédiatement. Bolduc. C'est lui le seul gardien de la maison. Les 23 autres chats ne sont que des pensionnaires enfermés dans le jardin d'hiver. Mon chat aussi me reconnaît. Je claque ma langue contre mon palais, puis je l'appelle.
Viens, Bolduc. C'est moi, Follette. Je suis revenue.
Tu t'appelles encore Bolduc, pas vrai ? Il se souvient de son nom. Il descend chaque marche avec une démarche de tigre nonchalant.
Je te fais un câlin, mais je peux pas t'emmener. Il n'y a pas de place pour toi chez moi. Mais je reviendrai, promis, une autre fois.
Dans le jardin d'hiver, je t'entends pester.
Bordel ! Cet abruti de scottish m'a griffé !
Et Karim te rassure avec la voix du gars qui fait un bac pro déménageur de chats.
Prends ton temps, Stevie. Si t'y vas en douceur, ces peluches sur pattes se réveilleront même pas quand tu les mettras dans le carton. Fais juste gaffe de pas arracher leur collier.
Je m'assois sur la première marche de l'escalier. J'y reste un moment. Bolduc se frotte contre moi.
T'es un vrai bon matou, toi. Pas comme ces chats de bourgeois.
Autour de moi, le flash du Minolta de Nina crépite. Même s'il est impossible de voir les éclairs de l'extérieur, tous les volets sont fermés,
Chaque illumination offre l'illusion que la bâtisse est hantée et que des fantômes branchés sur courants alternatifs s'amusent à apparaître et disparaître au gré de leurs envies.
Je dois te laisser, Bolduc. J'ai une chose à voir dans la cave. Regarde. 5265 JD76.
Je retire ma main par réflexe avant que Bolduc ne la lèche, puis j'ouvre la porte de la cave. J'attends de descendre une ou deux marches pour allumer la torche rangée dans ma poche. La Mini Cooper est toujours là, ainsi que la 205 et la Mercedes.
Est-ce que les Vidames partent jusqu'au cercle polaire en hélicoptère ?
Très loin, en direction du jardin d'hiver, je t'entends compter.
21, 22, 23. Le compte y est. Ils sont tous encartonnés. On peut les embarquer.
Ma torche éclaire le bas de caisse noir de la quatrième voiture sous la bâche. Personne ne semble y avoir touché depuis l'anniversaire de Consuelo. Ni depuis 6 ans, depuis la nuit où maman s'est envolée. Tout en avançant, torche braquée sur la bâche grise, je tente de raisonner de façon rationnelle. Il n'y a aucune raison pour que Richard Vidame ait renversé maman après qu'elle a sauté de la passerelle. C'est uniquement ma haine pour lui qui me fait croire à cette hypothèse. Et même si, aussi improbable que celui puisse être, cette hypothèse est juste, si c'est bien à Richard Vidame qu'appartient la Volvo noire sur la photo de Lazare, et même s'il avait écrasé maman avec, volontairement ou non, Vidame aurait forcément fait réparer la voiture depuis, et plus sûrement encore changer la plaque d'immatriculation. Découvrir un véhicule sans aucune bosse, avec une autre plaque, ne répondra à aucune de mes questions, ne changera rien à mes convictions. Je vois en haut de l'escalier un nouveau flash crépiter. Puis immédiatement après, une sirène se met à hurler. Un bruit insoutenable qui, en quelques secondes, va réveiller tout le quartier.
On se tire !
Crie Karim. Je remonte aussi vite que je le peux les marches de l'escalier. Le son de la sirène est encore plus assourdissant dans la pièce principale. Une boule blanche et poilue se faufile entre mes jambes, alors que d'autres se dispersent partout dans les pièces. Une vision d'horreur. Qu'as-tu fait, Stevie ? Au moment où l'alarme s'est déclenchée, surpris, tu as laissé les cartons en plan. Plusieurs se sont renversés ou ont été déchirés, et les chats se sont échappés. Ils courent partout, paniqués par le bruit et cette soudaine liberté, avant de finir par trouver la sortie et de se précipiter dans le parc. 100 000 francs. 10 plaques qui se tirent à 4 pattes. La plupart galopent dans l'herbe. D'autres tentent maladroitement de se réfugier dans un arbre.
« On plie le camp !»
répète Karim.
« Laisse tomber, Sty !»
Tu tentes pourtant de bloquer un angora, d'en ramener un au moins, tout en criant ta colère à Karim. Tu hurles pour couvrir le vacarme de l'alarme.
« Qu'est-ce que t'as merdé ? Tu devais débrancher les sécurités !»« Je l'ai fait !»
répond Karim en agitant les bras pour qu'on se hâte de déguerpir.
Mais y a un putain de mouchard dans leur collier! Dès qu'un chaton sort de la maison, tout se déclenche!
Merde. Personne n'avait pensé à ça. Que Rosanna puisse tenir à ses chats au point de les équiper d'un système d'alarme en cas de vol ou plus simplement d'évasion d'un de ses pensionnaires. J'attrape Nina par la main, son Minolta se balance autour de son cou.
On y va!
On sprint dans le couloir jusqu'à la porte d'entrée. Tu as abandonné l'idée d'attraper un chat, rien qu'un. Et tu es déjà installé derrière le volant. Karim, sur le fauteuil passager, nous tire la portière arrière ouverte et nous crie au moment où l'on atteint les marches du perron.
« Faites gaffe, les filles ! Ça glisse !»
On court quand même côte à côte, en se tenant la main. Je confirme, il y a du verglas. L'allée du parc est une vraie patinoire. Mais avec Nina, on forme une créature à 4 jambes, si stable qu'elle pourrait danser le tango sur la banquise. On s'engouffre à l'arrière de la camionnette. Les portières claquent, tu démarres sans allumer les phares. À l'exception de la faible lueur de la lune, il n'y a aucune lumière dans le parc.
Allume tes feux !
Ordonne Karim.
Pas de gyrophare en vue. On a de l'avance sur les keufs. Autant la garder.
Tu ne l'écoutes pas et tu fonces tout droit dans la semi-obscurité, comme si tu avais tout mémorisé et que seuls tes souvenirs te guidaient. On sort du parc sans même toucher le portail. Nina applaudit. Déjà, le son de la sirène diminue d'intensité, mais reste suffisamment fort pour réveiller les rues alentour. D'ailleurs, dans l'impasse du Mont Fortin, plusieurs fenêtres sont éclairées. Une certitude, dans ce quartier de retraités, tous doivent dormir avec un téléphone sur leur table de chevet. Ils ont dû appeler les flics avant même de se demander ce qui se passait. Tu accélères dans la rue sombre qui descend en pente raide, tout en criant d'une voix suraiguë.
On doit sortir de l'impasse avant que la police se pointe en face!
Tu conduis, Stevie, le plus vite possible. On en sort par miracle, sans qu'aucun voisin ne nous tire dessus. Sans croiser aucun véhicule en contresens. Dès qu'on s'engage dans une rue perpendiculaire qui descend à pic de la colline, une nouvelle sirène nous explose aux oreilles. La police. Des éclairs bleutés troublent l'obscurité. Un gyrophare. Les policiers sont là, tout près, quelque part dans le labyrinthe des ruelles. Tu n'hésites pas. Jamais je n'aurais cru, Stevie, que tu aies pu avoir autant de sang-froid.
« Si j'allume les phares !»
affirmes-tu avec autorité.
« Ils vont nous repérer. J'ai une autre idée !»
Notre camionnette descend lentement la pente de la rue à peine éclairée. Trop lentement. Karim, à côté de toi, paraît exaspéré. On devine qu'il trépigne, qu'il veut s'arrêter pour prendre le volant, ne pas le laisser à un enfant. Mais tout a été trop vite. Tu expliques, tout en continuant de ralentir.
Pas sûr qu'avec ce camion, on gagne contre les flics si on engage une course-poursuite. Mieux vaut rouler moins vite, mais disparaître comme une ombre.
Effectivement, tu freines encore. Karim n'a pas l'air convaincu par ta stratégie.
Et comment tu vas te diriger dans la nuit?
Grâce à la magie de Noël.
Du regard, tu désignes les seules lumières visibles depuis que les gyrophares se sont éloignés. Les guirlandes illuminées qui, tous les 50 mètres, enjambent les rues. Des Pères Noël, des sapins, des cadeaux, des étoiles. Tel un marin se guidant à la position des constellations, tu pilotes le camion en suivant les décorations scintillantes. Tu conduis avec prudence dans les rues en pente abrupte qui se succèdent. Les sirènes se rapprochent à nouveau dans une rue proche. L'éclair d'un gyrophare bleuit les façades des maisons avant que tout ne redevienne sombre. Ils sont passés sans nous apercevoir.
T'es un génie, Stevie !
Applaudit Nina. Elle se penche pour t'embrasser dans le cou. Même Karim paraît impressionné et s'autorise un sifflement admiratif. Moi, je me contente de poser la main sur ton épaule. Bien joué. On leur a échappé. Tu continues de suivre avec précaution les lumières de Noël. Les rues sont en pente descendante de plus en plus raide, mais tu prends confiance. Des guirlandes bleues clignotent, puis rouges, puis vertes, puis or. Tu accélères droit devant, tu vises une constellation de boules et de diadèmes. Une étoile solitaire semble suspendue dans la nuit. Tu tournes le volant par réflexe à droite, vers l'astre, avant de réaliser que la route vire brusquement à gauche dans les ténèbres. Tu comprends. Trop tard. Tu as suivi une lumière qui brillait au-delà du trottoir, à flanc de colline, dans un vallon arboré dont quelques sapins sont eux aussi décorés. Dans un mouvement de volant désespéré, tu tentes de braquer, mais les roues patinent sur le verglas et la camionnette continue sa course tout droit, pleine pente. Avons-nous eu le temps de crier? Avons-nous eu le temps de réaliser? Nous n'avons eu que quelques instants pour comprendre que nous prenions trop de vitesse et qu'il serait impossible de freiner sur le tapis d'herbe gelée. Tu as grappillé une ou deux secondes en évitant un premier arbre, puis un second, avant que le camion ne bascule sur deux roues dans le dévers de la descente. Tout a été encore plus vite ensuite. Le camion qui tombe sur le flanc comme une bête blessée, mais qui ne s'arrête pas, qui continue de rouler telle une boule d'acier, Nina qui tombe sur moi, une fois, deux fois, trois fois, et à chaque choc nos visages cabossés, sœurs de sang pour un dernier souffle. Avant que tout s'arrête. Avons-nous eu le temps de hurler avant que le cercueil de tôle ne s'encastre dans le dernier sapin de Noël? Avant que Karim ne soit éjecté et que la carrosserie ne se torde comme du papier froissé? Avant d'apercevoir le siège du conducteur se plier sous le poids du capot du moteur et du tableau de bord. Avant de fermer les yeux pour ne pas voir ton corps maigre broyé, tes bras retombés, ta tête se tourner pour que ton dernier regard soit pour Nina, pas pour le monstre de fer qui te dévorait. Nous n'avons eu que quelques instants, Stevie, pour comprendre que tu allais mourir à 13 ans, un soir de Noël, à cause de ma folie. Pour pleurer, nous aurons tout le reste de notre vie.